Oh, nous avons tous bien chanté, que Dieu soit loué. Alors, ce matin, nous avons notre thème. Je ne sais pas si... Il y avait des annonces à faire? Je ne reçois rien, moi, là. OK, on va prier pendant que les techniciens s'occupent là-bas. Seigneur notre Dieu, nous voulons te confier ce temps. Ce moment, nous voulons placer cela sous ton au patronage et sous ta souveraineté. Daigne nous diriger et nous conduire. Nous ne sommes rien et je ne suis rien. Le sujet qui m'est confié ce matin à apporter, Seigneur, je tremble dans mes culottes pour pouvoir les amener parce que je sais que je ne suis pas digne même de parler de cela. Parce que je ne suis pas aussi humble comme tu l'aurais voulu que je sois. Parce que je me bats aussi avec cela. Ce matin, j'aimerais que tu rentres dans nos cœurs, que tu nous parles à tous. Qu'ensemble, nous puissions regarder qui tu es, comment tu es, et ce que tu nous enseignes à ce sujet. Nous avons besoin d'apprendre de toi. Sincèrement, j'aurais souhaité que ce soit toi qui sois là, physiquement, pour parler. Mais tu as promis d'être avec nous. Et d'être devant nous. Alors je me fie à ta parole que ce matin tu es parmi nous, que tu vas me conduire dans ta grâce, afin que je puisse parler à mes frères et sœurs, mais aussi à moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais oui. Bon, viens prendre ça. Sinon, c'est envoyé depuis. Excusez, pendant que tu mets. C'est... Alors, donc, ce matin, il est question de parler réellement de la Jésus et moi. Jésus et moi, que nous avons commencé depuis quelques semaines avec Trevor Bridgman. Et Trevor nous a traité, nous a soutenu, nous a enseigné sur le sujet en disant « Jésus et moi, soyons saints. Jésus et moi, soyons compatissants. » Et ce matin, j'ai la lourde responsabilité de parler « Jésus et moi, soyons humbles. Soyons humbles. » Et je sais que c'est une lutte pour moi. Nous sommes tous orgueilleux d'une certaine façon, moi le premier. Peu importe ce qu'on peut dire, nous sommes tous orgueilleux. Et quelqu'un a dit que l'orgueil, ça meurt 15 minutes après ta mort. C'est-à-dire que quand tu es mort, l'orgueil est encore là, il attend 15 minutes pour se rassurer que tu ne vas pas te lever sans lui avant de te quitter. Alors, nous sommes tous orgueilleux. Et ce matin... Je ne veux pas prétendre dire que je suis meilleur que vous dans ce que je vais dire. Simplement, je vais essayer de nous aider ensemble, que nous puissions voir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, comment est-ce que Dieu veut que nous allions. Et regarder Jésus-Christ, le modèle suprême, le summum de l'humilité. Et de pouvoir appliquer cela dans notre vie. Amen. Amen. Alors, donc, pourquoi nous devons enseigner sur l'humilité. Pourquoi? Premièrement, nous enseignons sur l'humilité. Bon, je passe déjà vite. Pourquoi nous devons enseigner sur l'humilité? Parce que premièrement, c'est biblique d'être humble. La Bible nous enseigne d'être humble. La Bible nous exhorte à être humble. Elle nous dit, je vous exhorte, quand nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. En toute humilité et douceur, avec patience. Parce que c'est biblique d'être humble. Ce n'est pas une option. C'est un impératif, ça fait partie de la vie du croyant. Pourquoi nous devons être humbles? Parce que nous voulons obtenir grâce auprès de Dieu. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux... Alors c'est pourquoi nous voulons enseigner que l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, vous et moi, chacun de nous, et ceux qui nous visitent, et ceux qui ont fait de cette église leur foyer, que nous devons cultiver, développer l'humilité. Parce que nous voulons obtenir grâce. Dieu dit qu'il résiste à ceux qui sont orgueilleux. Alors, si nous voudrons être favorables aux égards de Dieu, à l'égard de Dieu, ou bien si nous voulons que Dieu soit favorable envers nous plutôt, alors nous devons développer l'humilité. Nous voulons être humbles parce que nous voudrons être élevés au temps convenable. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilions-nous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. La Bible nous exhorte à nous humilier sous la puissante main de Dieu et non sous la puissante main des rois et des princes de ce monde. Il nous demande de nous humilier afin que lui nous élève au temps convenable. Parce qu'il y a un moment pour que tu sois élevé. Il y a un moment pour que tu sois dans l'ombre, dans la petitesse. Il y a un moment pour cela. Il y a un temps pour s'élever. Mais si tu essaies de t'élever avant le temps de Dieu, tu vas te casser les reins. Si tu essaies de te lever avant le temps de reins, avant le temps de Dieu, tu vas te lever avec tes propres moyens, ça ne tiendrait pas longtemps. Si d'autres personnes essayent de t'aider à te lever et que ce n'est pas Dieu qui t'a élevé, tu vas t'écrouler et la chute sera catastrophique. Mais quand Dieu t'élève en son temps, au moment convenable, tu es solide comme une chaîne. Tu es solide. Tu ne tombes pas. Tu ne peux pas te briser. Parce que Dieu t'élèvera au temps convenable. C'est le moment approprié. Beaucoup de gens ont voulu s'élever sans que ce ne soit Dieu. Ils ont voulu occuper des postes sans que ce ne soit Dieu qui les a mis là. Ils se sont battus, ils ont fait la petite politique pour arriver à obtenir des endroits. Et puis ils sont là, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui les a amenés là. Ils sont allés de leurs propres moyens, de leurs propres forces. Mais quand Dieu t'élève, personne ne peut te faire descendre. L'Écriture dit, quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais quand Dieu ouvre une porte, personne non plus ne peut la fermer. Amen. Pourquoi nous voudrons enseigner sur l'humilité? Parce que nous voudrons conserver l'unité dans l'Église et dans nos familles. L'humilité est un ingrédient important, l'ingrédient essentiel pour que les croyants, les chrétiens puissent s'approcher de Dieu, ils ont besoin de l'humilité. Pour que les chrétiens puissent s'approcher entre eux-mêmes, ils ont besoin de l'humilité. Se demander de service et se demander pardon, vivre en harmonie dans la maison de Dieu ensemble, dans le couple et dans le foyer, nous avons besoin de l'humilité. Et si nous ne l'avons pas, rien ne fonctionnera correctement. On peut être un couple, on est ensemble. Mais ça ne va pas. On est ensemble pour l'image. Pour ne pas les quand on dit qu'on va compléter, augmenter ou gonfler le taux des divorcés. Alors donc, on reste ensemble quand même. Mais ça ne va pas. On ne s'aime pas. L'amour a disparu il y a longtemps. Elle a pris la fenêtre. Parce qu'on n'est pas prêt à s'humilier et à se demander pardon et à régler les problèmes et à combattre, à attaquer le problème plutôt qu'à nous attaquer nous-mêmes. Des frères sont dans l'église et des sœurs sont dans l'église, ils ne peuvent pas se regarder. Ils se regardent en chien faillant. Quand l'autre passe ici, il va de l'autre côté. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, nés de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas capables de cohabiter ensemble, de travailler ensemble, d'exercer un même ministère ensemble, d'approuver et de bénir l'autre dans son travail. Tout ce qu'on fait, c'est de le calomnier et chercher à le couper l'herbe sous les pieds, à essayer de détruire son image, à le dénigrer de sorte que les autres le vomissent. Nous sommes tous comme ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. L'humilité. Pourquoi nous enseignons sur cela? Pour donner un coup fatal à toutes nos ambitions égoïstes et orgueilleuses. Nous voudrons donner le coup de grâce à l'orgueil qui nous empêche de vivre en paix les uns avec les autres. Nous voudrons donner le coup de grâce réellement à nos ambitions qui ne sont pas de Dieu, égoïstes, qui font que nous ne pouvons pas plus prendre soin des uns des autres, qui font que nous ne pouvons pas nous impliquer dans l'œuvre de Dieu, qui font que nous ne sortons plus pour aller évangéliser, qui font que nous n'assistons plus aux études bibliques, qui font que nous n'assistons plus même à groupe connexion, qui font que dans nos foyers, dans nos familles, ça ne marche plus. Christ est devenu simplement un emblème qui est accroché dans notre famille, mais il ne sert plus à rien. À cause que nos égoïsmes et nos ambitions personnelles nous envoient loin du plan de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons enseigner et parler de l'humilité. Nous voulons parler de cela pour développer et garder une relation en santé avec Dieu. Donner gloire à Dieu. En un mot, nous devons cultiver l'humilité comme peuple de Dieu pour donner gloire, gloire à l'Éternel notre Dieu. Amen. C'est ça que nous voulons faire. Alors dans ce cas, comme je l'ai dit, l'humilité, c'est un ingrédient nécessaire pour s'approcher de Dieu et indispensable pour la marche chrétienne. Si la foi et la sainteté nous rendent agréables à Dieu, mais l'humilité à nous, lui attire favorablement le regard de Dieu sur nous. Si la foi et la sainteté nous rendent agréables à Dieu, l'humilité attire favorablement le regard de Dieu sur nous. Et l'Écriture nous dit, Dieu lui-même déclare dans Ésaïe, il dit, voici, je regarde. Voici sur qui je regarde, celui qui est humble et qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Dieu est en train de dire, si tu veux que j'aie ton attention, si tu veux que moi je te donne de l'attention, voilà ce que tu dois être, sois humble. Dans nos familles, dans notre société, les enfants, quand ils veulent avoir de l'attention, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Bianca, qu'est-ce qu'ils font? Nolan, il fait quoi quand il veut avoir de l'attention? Il pleure. Beaucoup d'enfants pleurent. Même les madames, quand ils veulent avoir de l'attention, elles pleurent. Mais c'est vrai, c'est normal. Et moi, je suis incapable de supporter les larmes. Parce que quand je vois un adulte qui pleure, je capote. Ça me déstabilise totalement. Je trouve que c'est trop grave, je ne sais pas quoi faire. Jusqu'au jour, quand ma femme pleurait, je m'inquiétais. Jusqu'au jour, un grand frère m'a dit, Adama, ce n'est pas toujours quand une femme pleure que c'est forcément grave. Mais c'est bon de temps en temps qu'elle pleure. Parce qu'elle va voir la voisine qui passe ou bien une dame qui passe qui a un problème. Elle ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais elle compatit. Sa mère, son cœur de mère fait qu'elle compatit et pleure. Et pleurer n'est pas une faiblesse, c'est aussi une force. Amen. Donc, on veut attirer l'attention des gens, on va pleurer, on va chioler, on va faire du bruit. Et il y en a même là, je vois que dans la société aujourd'hui, quand tu sors, excusez-moi mes sœurs, je n'ai rien contre vous là, mais c'est ce que j'ai constaté que je dis. Elles vont s'habiller en pantalon moulant. Et les talons là, tu entends les bruits là, kaou, 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 kaou. Et puis tout le monde tourne la tête pour regarder. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir l'attention. Mais Dieu dit, ce n'est pas ça qui attire moi mon attention. Si tu veux avoir mon attention, sois humble. Si tu es humble, tu vas avoir toute mon attention. Je vais avoir un regard favorable sur toi. Est-ce que nous voulons que Dieu ait un regard favorable sur nous? Est-ce que nous voudrons ça? Est-ce que nous cherchons cela? Est-ce que nous désirons cela? Alors nous devons être humbles, frères et sœurs. Mais si nous devons être humbles pour obtenir l'attention de Dieu et tout cela, alors qu'est-ce que c'est que l'humilité? Alors, l'humilité, selon le dictionnaire Antidote que j'ai regardé, et l'humilité est définie comme étant humble, modeste, simple, sans prétention, sans éclat. Quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui a de l'humilité, c'est quelqu'un qui est humble, qui est modeste, qui est simple, qui ne se pète pas les bretelles, qui ne pète pas la broue. N'est-ce pas? En bon québécois, ils disent souvent qu'ils pètent plus haut que le trou. C'est ça? Ou bien je me trompe, c'est pas ça? Alors donc, on ne veut pas ça. Alors que Dieu nous aide. Alors l'humilité, c'est ça. C'est ce que le dictionnaire nous dit. Mais dans le grec, on nous dit l'humilité, selon le grec, c'est un mot qui fait référence à l'humilité d'esprit. La Bible nous dit « Heureux les pauvres en esprit », n'est-ce pas? « Car le royaume des cieux est à eux. » Ça fait référence à cela. Alors donc, être humble, c'est savoir se rendre petit. C'est se faire petit, reconnaître sa position, accepter qu'on est petit et faire plaisir et aider les autres. Et être humble, c'est être modeste. On peut dire que quelqu'un a un travail modeste. Il a une modeste femme, un modeste mari, hein, un modeste emploi. Il parle d'une manière modeste. On peut dire tout cela pour parler de la simplicité des gens. Alors, ce que l'humilité n'est pas. Maintenant, nous savons ce que c'est que l'humilité. Ce que l'humilité n'est pas. L'humilité, ce n'est pas de dire que je suis humble. Quand je commence à dire moi-même que je suis humble, il y a un problème. Le sucre ne dit pas aux gens que lui, il est sucré, mais cependant, on l'achète. Vous êtes d'accord? C'est les autres qui doivent te louer et non toi-même. Avez-vous déjà vu un livre où quelqu'un a écrit « L'humilité, voici comment je l'ai acquis » Non, s'il écrit ça déjà, il a perdu son humilité. Il n'a plus. Ça n'existe pas. L'humilité, ce n'est pas de se mépriser ou de se dévaloriser. « Ah, moi, je suis rien. Moi, je suis de la chenoute. Moi, je suis de la crotte. Je ne vaux rien. Je suis comme ci. Je suis comme ça. » Ce n'est pas de se dénigrer. C'est être stupide quand tu fais ça. Quand nous faisons cela, c'est être stupide. Parce que Dieu ne dit pas que tu es comme ça. Dieu dit « Tu es mon enfant » quand tu es chrétien, né de nouveau. Dieu dit « Je t'ai racheté au prix de Jésus-Christ. Tu as de la valeur pour moi. » Dieu ne dit pas que tu ne vaux rien. Et quand tu étais dans l'état de péché, Dieu est venu te chercher, il t'a fait asseoir avec les grands, et il dit maintenant, tu es mon fils, tu es héritier et co-héritier avec Jésus-Christ. Mais si toi, tu te dénigres, tu crois que c'est être humble, ce n'est pas être humble, c'est être stupide. L'humilité, c'est être capable de se juger à sa juste valeur et d'accepter ce que nous sommes et ce que les gens disent de nous que nous sommes et que nous le sommes devant Dieu. Amen. Ce n'est pas de se dévaloriser ou de se faire croire ce que tu n'es pas. L'humilité, ce n'est pas de rejeter les compliments. Parce que des gens, on va les remercier, on va dire, ils ont fait quelque chose de bon, on va leur dire merci, c'est très bien fait. On va dire non, 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 je sais pas, c'est pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a fait. Oui, on sait que le Seigneur l'a fait. Si on te dit merci, ça enlève quoi dans le Seigneur? Ça n'enlève rien dans le remerciement du Seigneur. Ça n'enlève rien dans la bonté de Dieu. Nous avons le droit de nous remercier les uns les autres, être reconnaissants. Si quelqu'un vient te dire « Merci mon frère parce que tu as bien joué. Merci mon frère Billy parce que tu viens de permettre que mon PowerPoint fonctionne. Merci telle personne, monsieur X temps. » Alors nous devons accepter cela, nous devons dire « Merci, cela me fait plaisir. » Ce n'est pas de l'orgueil. Tu as rendu un service et on te remercie. Vous savez, une fois, une jeune dame a joué au piano à l'église. Quand elle a fini de jouer, le pasteur est allé la trouver et dit, « Mademoiselle, vraiment, tu as bien joué, c'était bien. » Elle dit, « Non, 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 c'est pas moi, c'est le Seigneur. » Le pasteur dit, « Non, 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 si le Seigneur jouait, il jouerait mieux que ça. Si c'était le Seigneur qui était au piano, il jouerait mieux que ça. » Vous voyez, ça, c'est de la fausse humilité. Donnons gloire à Dieu et acceptons ce qui nous revient comme crédit sans se vanter. L'humilité, alors quand nous regardons cela, on dirait que je suis parti plus loin. Alors, donc, voilà ce que nous devons faire. Et nous devons comprendre cela. L'humilité, ce n'est pas de s'habiller pauvrement non plus. J'ai habité en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec un missionnaire qui était venu nous visiter, qui n'était pas de la même mission que nous, mais qui voulait apprendre ma langue pour pouvoir parler aux gens et puis faire l'évangélisation. Il est allé faire habiter sa famille dans un quartier missionnaire bien cossu, bien développé. C'est pas mauvais parce qu'ils sont des expatriés, ils viennent, ils ne peuvent pas habiter n'importe où, je comprends ça. Et puis il a décidé d'aller louer une cabane dans un quartier populaire des pauvres, et puis il porte des chemises et des pantalons troués, délavés, et puis il vient tous les jours, il dort là-bas une nuit par semaine, et puis il essaye de faire croire qu'il est comme eux, et puis lui, il vient en voiture, une belle voiture, il vient stationner, et puis il va dormir dans un taudis. Est-ce que vous pensez que ça marche? Je lui ai dit, ça ne marche pas, mon ami. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que les gens dans le taudis, là, ils ne sont pas fous. Eux, ils ne sont pas pauvres parce qu'ils veulent être pauvres. C'est les conditions qui les ont mis dans ça. Mais toi, tu as les moyens, ils savent que tu n'es pas ici tous les jours. Ils savent que tu habites dans tel quartier. Ils te voient à l'hôtel Ivoire avec tes enfants à la piscine. Puis toi, tu viens faire ça, tu t'habilles comme ça pour essayer, tu ne les gagneras pas comme ça. Sois toi-même. Ils te préféreront comme ça que d'être autre chose. Et il a écouté le conseil, il a appliqué, ça l'a beaucoup aidé dans l'implantation de l'Église. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas essayer d'être quelque chose d'autre que nous ne sommes pas. Amen. Un jour, quelqu'un m'appelle, il essaye de me taquiner, parce que vous savez, dans les assemblées des frères que nous sommes, nous ne disons pas pasteur, on dit ouvrier en plein temps, ou bien, bon, c'est tout récemment avec notre nouvelle constitution qu'on a fait avec notre frère Jules Poulin et d'autres frères ici, on a dit non, ce n'est pas le mot approprié devant le gouvernement. On dit l'ouvrier, c'est le ministre du culte. Alors, ou pasteur, c'est ça qui est reconnu devant tout le monde, c'est ça que les gens comprennent. Sinon, on dit ancien ou ceci, cela. Alors, un jour, il y a un frère qui me taquinait, il dit, alors, bonjour, monsieur le pasteur. J'ai dit, ouais, tu le fais bien car je le suis. Ah, il était surpris. Il ne s'attendait pas à cette réponse-là. Il dit, mais tu es devenu baptiste ou quoi? J'ai dit non, mais je voulais te répondre pour te montrer que ce que tu voulais me jouer comme tour, je t'ai joué le tour pas même. L'arroseur arrosé, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, donc, soyons simples et humbles. Jésus même, on lui disait, Seigneur, Maître, il dit, tu fais bien, car je le suis. Il n'a jamais dit, oh non, moi je ne suis pas Seigneur, je ne suis pas le Maître, c'est au ciel. Non, il a accepté. Si tu as quelque chose, tu as un patron, accepte cela. Tu joues un ministère, tu joues un musique, on te dit que tu es ceci, accepte-le. Dans l'Église, on ne peut pas être différent des autres d'une certaine façon au niveau du travail. Les rôles sont là pour éclairer, pour enlever toute ambiguïté dans l'exercice de nos dons et de nos ministères et de nos devoirs. Quand tu as un titre, tu as une responsabilité qui vient avec. Sinon au ciel, Dieu ne s'appellera pas Dieu le Père et puis le Saint-Esprit et le Fils. Ils auraient dû dire simplement, on est tous Dieu et puis ça s'arrête là. Mais pourquoi ils ont partagé? Il y a l'ange Gabriel et à ceci, ceux-là, ils ont leur rôle. Pourquoi? Ils ont clarifié les choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont moins spirituels. Donc, l'humilité ne veut pas dire renier les fonctions ou les dons ou les talents que les uns et les autres ont. Alors, Jésus et moi, maintenant, puisque tout ce que nous sommes en train d'étudier ce matin, nous voudrons savoir comment nous pouvons être humbles. Comment nous pouvons vivre l'humilité selon la parole de Dieu? Jésus et moi, nous devons savoir si nous voulons cultiver une relation fondée sur l'humilité avec Jésus. Nous devons regarder premièrement à Jésus lui-même, à sa personne, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Quand nous regardons la chronologie de sa naissance jusqu'à sa mort, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées dedans. Jésus dit lui-même, de lui-même, il dit, je ne cherche pas ma gloire, je suis venu pour faire la gloire de mon Père. Jésus n'est pas venu faire sa propre gloire. Il dit, je ne cherche pas ma gloire. Je ne cherche point ma gloire, mais je fais la gloire de Dieu. C'est ça qu'il veut. Alors, donc, nous devons savoir qu'il ne cherche pas à faire autre chose. Nous aussi, si nous voulons être humbles, nous ne devons pas chercher autre chose que la gloire de Dieu. De louer Dieu et de travailler pour sa gloire. Et Jésus lui-même dit, « Car je suis doux et humble de cœur. » Imaginez-vous dans la rue, et puis vous vous promenez, vous dites, « Vous, vous êtes doux et humble de cœur. » Est-ce que les gens vont vous croire? Non, mais Jésus, lui, pouvait le dire. Pourquoi? Parce qu'il était. par ses actions et par ses paroles. Et tout ce qu'il faisait était vraiment exact, qu'il était humble et doux. Alors, nous regardons. De par sa naissance, Jésus a démontré qu'il était un homme humble. Il ne vient pas dans un palais royal. Il est né dans une étable. Cependant, il est le Dieu créateur de l'univers et tout lui appartient. Il aurait pu détacher une délégation dans le ciel pour les envoyer sur la terre, préparer le terrain et rassembler tous les rois de la terre, de préparer un festin parce que lui vient et de lui bâtir la meilleure des maisons. Mais il n'a pas fait cela. Il vient comme un enfant dans une étable. Quelle humilité! Quelle humilité! Il naît dans une étable. Il ne vient pas avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il ne grandit pas avec cela. Non, Jésus-Christ, il vient pour servir aussi en même temps. Il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Dans Marc 10, 45, c'est ce qu'il nous dit. Il vient pour servir. Il ne vient pas pour se faire servir. Il ne vient pas pour être le boss pour tout le monde. Cependant, il avait les capacités, les moyens, la force de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a démontré son humilité au travers de cela. En lavant les pieds des autres. Il a démontré son humilité en travaillant, en naissant dans une famille modeste de charpentier, fils de charpentier. On l'appelait comme ça. Jésus, le fils du charpentier. Son papa faisait un métier modeste. Il aurait pu dire à Joseph, amène-moi ton CV, puis il va te donner un bon job, là. Arrête de tailler le bois là-bas. Là. Mais il n'a pas fait ça. Toutes les richesses lui appartenaient. Mais il a accepté de travailler, comme tout le monde, pour subvenir à ses besoins. Et en accompagnant son père dans le travail. Quelle humilité! Cependant, celui-même qui l'apprenait à travailler, c'est lui qui l'a créé, imaginez-vous. Et puis, il accepte de le suivre. Jésus fait une rentrée triomphante à Jérusalem. Dans son entrée triomphante à Jérusalem, il ne vient pas sur un cheval, il rentre avec un âne. Monté sur le dos d'un âne, il démontre son humilité. Il aurait pu venir en galopant sur des chevaux, mais il vient humblement. Et l'Écriture, cela confirme les prophéties qui avaient été dites par Zacharie dans chapitre 9. Il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur l'âne le petit d'une ânesse. Et Matthieu reprend cela dans les évangiles. Pour confirmer l'accomplissement de la prophétie. Le Messie qui monte sur un âne. Mais l'Écriture nous dit dans l'Apocalypse, quand il va venir, il ne vient pas comme ça, il vient sur des chevaux. Il vient pour une bataille. Il vient en vainqueur. Mais là, il est venu humblement pour rassembler, pour appeler les gens à la repentance. Quelle humilité! Jésus est devenu humble. On l'a frappé, j'en passe. On l'a battu, on a craché sur lui. Et tous ceux qui l'ont porté main, ils pouvaient tous leur casser la gueule à chacun. Mais il ne l'a pas fait. Même quand Pierre a enlevé son épée dans sa poche pour couper l'oreille du centenier qui était là, il dit, remets ton épée à sa place. Si j'avais besoin, j'aurais fait venir une légion d'anges. 12 000 anges. Il aurait pu faire descendre cela pour le défendre. Regardez le dégât qu'un seul ange a pu faire à Sodome et Gomorre. Imaginez-vous combien d'anges, 12 000 anges, leurs dégâts, qu'est-ce que ça va faire? Mais Jésus n'a pas fait cela. En étant en position de force et de capacité de se venger, il ne s'est pas vengé. Il pouvait rendre coup pour coup, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Par humilité. Nous, quand on nous frappe, et qu'on n'est pas capable de rendre notre coup, on dit, bon, je laisse pour moi à Dieu. C'est parce que tu n'es pas capable, hein? Le gars, il est plus fort que toi. Sinon, s'il n'est pas plus fort que toi, tu vas rendre ton coup. Mais tu sais que tu ne peux pas le frapper, tu dis, bon, je laisse ça à Dieu. Ça, c'est parce qu'on n'est pas capable. Mais un enfant de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ, quand il est humble, il ne rend pas le coup par coup. Il laisse, il remet toute vengeance à Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit. La vengeance à Dieu, la rétribution à Dieu. Nous devons faire ça. Alors, comment Jésus a-t-il démontré son amour, et pardon, son humilité? Nous venons de voir quelques-uns. Mais Jésus a démontré son humilité dans un endroit plus précis, qui est plus puissant que tout, que toute la Bible en parle. Le summum de toute l'humilité de Jésus-Christ s'est démontré dans Philippiens chapitre 2. Nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. L'Écriture nous dit, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Là, Dieu a démontré toute sa puissance. Jésus a déployé toute son humilité. Ce que nous avons vu, ça c'était de sa naissance jusqu'à avant la croix. Mais maintenant, avant d'aller sur la croix, il a démontré tout. Et c'est les disciples qui rendent témoignage de cela, qui dit comment il a démontré son humilité. Il a manifesté son humilité en faisant quoi? En prenant la forme de serviteur, en devenant semblable à nous. On dit lequel, verset 6, on dit lequel existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il était Dieu, n'ayant point gardé, regardé, comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Il aurait pu dire, Dieu là, moi je ne descends pas pour aller sur la terre. Je suis aussi Dieu comme toi. Le Saint-Esprit est Dieu comme moi. On est tous égaux, je ne descends pas. Et puis personne ne le forcera à descendre. Parce que la Trinité ne se conteste pas. Ils sont d'accord, unis ensemble. Ils font tout dans l'harmonie. Il n'y a pas de chicane entre eux. On n'a jamais vu le Saint-Esprit critiquer le Père avec le Fils, ni le Fils critiquer avec le Père le Saint-Esprit. Ils sont tout le temps en harmonie, ils se suffisent entre eux. Alors, Jésus vient pour accomplir. On dit qu'il était Dieu, et il est Dieu encore, il n'a pas changé. Jean-Paul Bernet disait ceci, il dit « Jésus, en devenant homme, on dit qu'il s'est dépouillé, mais quand tu fouilles l'Écriture, il ne s'est pas dépouillé. En fait, il a ajouté. Parce qu'il n'a rien enlevé dans sa divinité pour devenir humain. Sinon, il ne sera plus Dieu. S'il a enlevé quelque chose dans sa divinité, alors Jésus n'était pas 100% Dieu sur la terre. Et s'il n'est pas 100% Dieu sur la terre, alors notre théologie sur la Trinité, sur la divinité, sur la Christologie n'est plus bonne. Elle n'est plus bonne, il faut la changer. Jésus-Christ était Dieu pleinement et pleinement homme. Il a pris une forme humaine. Alors, on dit qu'il est devenu serviteur, esclave pour servir. Il n'est pas venu en tant que roi. Il n'est pas venu en tant que patron. Mais il est venu dans une posture de serviteur. Quelle humilité! En devenant semblable aux hommes, et on dit devenant simple homme, c'est-à-dire que vous et moi, là, nous ne sommes que des simples hommes. Vous comprenez ça? Jésus est devenu ce qu'il n'a jamais été, et tout en restant ce qu'il a toujours été. Je reprends, Jésus est devenu ce qu'il n'a jamais été, tout en restant ce qu'il a toujours été. Amen. Dieu, homme. Alors, il a pris la forme. il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Voilà l'humilité de Jésus-Christ. Il a décidé de devenir un humain. Un Dieu puissant qui n'a pas besoin d'être comme nous, mais qui décide de descendre, de prendre notre physique et devenir comme nous pour nous racheter. Il a montré son humilité. Il aurait pu détacher un ange du ciel pour venir mourir à la croix pour nous. Il aurait pu dire, Gabriel, bon, je te donne l'ordre, tu t'en vas faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Il est venu lui-même. C'est ça l'humilité. Le roi qui descend de son trône et qui descend, qui marche dans les rues de Jérusalem. Quelle humilité pour nous. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Le fait que Dieu Tout-Puissant, capable de tout faire, capable de tout créer, il n'a pas besoin de travailler physiquement. Il prononce et les choses viennent à l'existence. Mais que lui, il décide de marcher parmi nous et décide de manger comme nous. Il décide d'accepter de souffrir comme nous, de dormir, d'avoir faim comme nous et de marcher et de manger avec les pauvres, de guérir les malades et de toucher les impurs, les lépreux. Tout cela, si ce n'est pas de l'humilité, dites-moi c'est quoi? Quand nos rois et nos chefs d'État se déplacent, on va tester, on va regarder tous les lieux pour que ça soit sûr, sécure. Personne ne peut les approcher. Il faut prendre audience pour les rencontrer. Et même quand ils ne sont plus présidents, quand ils viennent à Trois-Rivières ou à Québec, bah, Trois-Rivières, ils ne sont jamais arrivés ici, là. Mais quand ils viennent à Montréal, il faut payer des tickets pour aller les rencontrer dans leur conférence. Ils ne sont pas approchables. Mais nous, notre Dieu s'est rendu accessible à tous. C'est pourquoi nous pouvons le prier ce matin. C'est pourquoi nous pouvons l'adorer ce matin. Et il veut que nous soyons comme lui. Il nous donne son modèle à lui. L'humilité, c'est ressembler à Christ. Avoir les sentiments de Christ en nous. Les pensées de Christ en nous. Les motivations de Christ en nous. Le désir de Christ en nous. La joie de Christ en nous. Deuxièmement, Christ est devenu, il a manifesté son humilité en se rendant obéissant. L'Écriture nous dit dans le verset 8 à 11, je vais seulement lire cela, il dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à même la mort de la croix. Jusqu'à même à la mort de la croix. Je ne sais pas pourquoi ils ont dû ajouter le « même » là. Jusqu'à la mort, jusqu'à même à la mort de la croix. En français, quand on dit « jusqu'à même là », ça veut dire quoi, David? « Même là ». C'est encore plus, hein? Il ajoute « dessus » pour aller plus loin. Qu'il est allé au-delà du « delà ». Il a fait plus l'obéissance. Il a démontré son humilité en obéissant. La question ce matin, sommes-nous obéissants, nous? Notre humilité, si nous disons que nous sommes humbles, nous devrons le démontrer dans notre obéissance à la parole de Dieu. Nous devrons le démontrer dans notre obéissance en faisant son service, en travaillant pour lui. Nous devrons le démontrer dans notre obéissance en prenant soin des uns des autres, comme Christ a pris soin de tout le monde. Il est devenu obéissant pour aller mourir, pour que tout le monde entier soit réuni avec Dieu, soit réconcilié avec Dieu. Il n'a pas fait ça pour son propre intérêt. C'est pourquoi l'Écriture nous dit avant, quand nous regardons Philippiens, avant, chapitre 2, verset 3, l'Écriture nous dit ceci. Chapitre 2, verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus a considéré ton intérêt et mon intérêt. Il s'est humilié, il a obéi jusqu'à la croix. Son obéissance, ce n'était pas pour lui, c'était pour toi, pour moi. Est-ce que je suis prêt à obéir pour que mon obéissance, le profit de mon obéissance rejaillit sur quelqu'un d'autre? Sommes-nous prêts à obéir pour que notre obéissance soit une bénédiction pour Trois-Rivières, une bénédiction pour nos voisins, une bénédiction pour nos patrons, une bénédiction pour nos collègues au travail, une bénédiction pour les enfants, une bénédiction pour nos visiteurs, une bénédiction pour tous ceux et celles que nous rencontrons. Sommes-nous prêts à obéir comme Christ a obéi? Lui, quand il a obéi, ça a eu un impact. Quand nous obéissons pour notre propre profit, pour notre égoïsme. Parce qu'on veut recevoir quelque chose de Dieu, on va obéir. On va jeûner et prier parce qu'on est dans du trouble, on a besoin de ça, alors on veut que Dieu réponde. Ah Seigneur, le mari là, ça ne vient pas, donc je vais rentrer dans le jeûne 40 jours pour que je trouve un mari. 40 jours pour que je trouve un mari, une femme. 40 jours parce que je vais être guéri d'une maladie quelconque. Mais est-ce que, avant que je ne tombe malade, est-ce que je rentrais dans le jeûne et la prière pour que des âmes et des hommes soient sauvés pour la gloire de Dieu? Est-ce que par mon obéissance, je suis prêt à sortir d'aller dans les rues de Trois-Rivières, sillonner le Cap de la Madeleine, par obéissance pour que l'Évangile soit propagé et proclamé, sort des quatre murs de notre Église? Ou bien par mon égoïsme, on va dire, okay, ils peuvent mourir là-bas, ce n'est pas grave, moi je suis sauvé, je vais envoyer au ciel, ben, quand Jésus viendra me chercher, il va leur dire, bye bye, bye bye. Est-ce que c'est ce que nous pensons faire? S'il vous plaît, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Voilà comment Jésus a démontré son humilité. Maintenant, dans un mot, comment nous pouvons... Le fait que Jésus est mort à la croix pour moi, le fait qu'il a obéi, le fait qu'il s'est transformé en devenant un simple homme pour nous, maintenant, nous, comment nous pouvons maintenir notre relation avec Dieu? Nous savons ce que c'est que l'humilité, nous connaissons ce que n'est pas l'humilité, nous savons le modèle que Christ nous a montré. Nous, en tant que chrétiens, comment devenir humble et se maintenir dans l'humilité tous les jours dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec notre prochain? Voilà ce que nous pouvons faire en dépendant de Dieu. Comment? Chaque jour, par la prière. Quand je prie, je montre à Dieu ma dépendance. Je ne montre pas que je suis suffisant. Je montre mon insuffisance en disant, Dieu, j'ai toujours besoin de toi. Je ne suis pas capable de vivre par moi-même. Alors, je suis sur l'aspirateur, respiratoire artificiel. Si on lâche, qu'est-ce qui arrive? On meurt. Alors, il faut que Dieu soit ton respiratoire artificiel, spirituellement. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, je ne suis rien. Alors, en priant, je suis en train de démontrer ma dépendance en Dieu. En demandant pardon tous les jours, je suis en train de montrer que je suis pécheur et que j'ai besoin du pardon de Dieu et que je ne suis pas encore parfait. Comme ça, je ne regarderai pas les autres avec les airs bizarres. Parce que je me rappelle que je suis pécheur. En obéissant et en me soumettant, en travaillant pour lui, prêt à payer n'importe quel prix pour que son nom soit glorifié à tout moment. En étudiant les attributs de Dieu, ça m'amène à savoir la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, la sainteté de Dieu m'amène à reconnaître ma petitesse et à reconnaître que je suis un pécheur, comme Ésaïe a dit. Saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Il dit, lui, il était un pécheur, dans Ésaïe chapitre 6. Quand Ésaïe a vu le Dieu Tout-Puissant assis sur le trône, alors il s'est rendu compte de son état. Alors chaque fois quand nous allons étudier les attributs de Dieu, la bonté et la sainteté de Dieu, alors nous allons nous rendre compte de notre petitesse et de notre condition de pécheurs qui ont besoin continuellement de Dieu. Alors, nous devons aussi nous rappeler de la grâce de Dieu envers nous. C'est un moyen pour nous garder humbles. Me rappeler que j'étais pécheur, que Dieu m'a pardonné. Mais cela me donne l'occasion aussi de pardonner mon frère en face de moi et ma sœur en face de moi. Quand il m'offense, quand il me blesse, je ne monte pas sur mes chevaux. Je descends de mes chevaux. Et puis je fais grâce comme Christ m'a fait grâce. C'est comme ça que nous pouvons nous maintenir dans l'humilité. Et comment nous maintenir dans l'humilité à l'égard de nos frères et sœurs? C'est en n'ayant pas une haute opinion de nous-mêmes. L'Écriture nous dit, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Quand je commence à me prendre pour un autre, alors je vais mépriser mes frères et sœurs. Alors si je vais garder l'unité dans le sein, au milieu du peuple de Dieu, l'unité dans le travail que je fais, l'unité ensemble comme Église, alors nous devons apprendre à nous considérer les uns les autres, à avoir de la reconnaissance et à valoriser les uns les autres plutôt que de les dénigrer, que de les critiquer. Plutôt de voir ce qui n'a jamais été fait, essayons de voir ce qui a été fait et encourageons-nous ensemble à faire ce qui n'a pas été fait. Amen. Plutôt que de dire, ouais, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Vous savez, une fois c'est arrivé comme ça. Une sœur que je connais, je ne dirai pas son nom, son mari a peinturé la maison, elle était fatiguée et devait déménager dans leur nouvelle maison. Son mari a passé du temps à travailler, à peinturer toute la maison. La madame arrive, au lieu de dire, chérie, waouh, tu as fait une bonne job, c'est vraiment bien. La madame n'a pas dit ça, elle dit, ah ouais, mais ça c'est pas bon, ça c'est pas fait, tu as manqué ici, tu as manqué ici. Le frère, il est venu me voir, il dit, il pouvait mourir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'au moins, si elle m'avait dit, ouais, le travail est bien fait, mais il y a des retouches qu'on va faire ensemble. Mais tout ce qu'elle a pu voir, c'est ce qui n'a pas été fait. Mais tout ce qui a été fait, elle n'a pas mentionné. Je parle des sœurs, mais des fois, il y a des frères qui sont comme ça. S'il vous plaît, encourageons-nous, frères et sœurs. Encourageons-nous. Quelqu'un qui est humble sait reconnaître la valeur des autres. Quelqu'un qui est humble sait encourager les autres à pouvoir mettre leurs dons et leurs talents en valeur. Quelqu'un qui est humble, quand on est dans sa présence, on ne se sent pas petit, on se sent grand. Parce qu'il nous aide à être grand. Amen. J'ai beaucoup à dire, je ne pourrai pas tout les dire. On va aller à notre conclusion. Si nous voudrons être humbles, si nous voulons grandir dans le Seigneur, si nous voulons garder l'humilité en nous, alors ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais ici, dans Romains 12, 16, il nous appelle, ayez les sentiments les uns pour les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ça, c'est un avertissement qu'il nous donne. Pour nous éviter de tomber de l'autre côté, pour nous garder dans l'humilité. Cherchons ce qui est humble. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler, de ne pas être meilleur. Si Dieu te donne des talents pour travailler et être meilleur, c'est bon. Mais ne cale pas les autres pour que toi tu sois meilleur. Amen. Ne cale pas les autres. Aide les autres à monter. En conclusion, si nous voulons être humbles, nous voulons garder l'humilité et demeurer humbles avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous revenons à notre premier verset au début, chapitre 2, verset 5. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est la clé. Il était animé avec des bons sentiments. Il n'a pas cherché son intérêt à lui. Il a cherché l'intérêt de tous. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Il a cherché à glorifier Dieu. C'est ce que nous devons faire. Je vous laisse avec ces trois petits conseils. N'ayons pas une trop opinion de nous-mêmes. Considérons, ayons une considération les uns pour les autres. Recherchons la gloire de Dieu en toutes choses, dans tout ce que nous faisons. Et dans Michée chapitre 6, verset 8, il dit, « Ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. » C'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Alléluia. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on connaît ce chant? On peut le chanter ensemble? Oh, on t'a homme, on t'a montré ce qui est bien. C'est ça? Comment on dit? On va? Comment ça? Ô homme, c'est que l'éternel de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Une dernière fois. Ô homme, t'as fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu.
Seigneur, aide-nous à marcher humblement avec toi. Pardonne-nous nos péchés et nos fautes, tout ce que nous avons fait qui n'a pas été à ta gloire, toutes les fois où nous avons été orgueilleux, toutes les fois où nous avons mis notre intérêt en avant, nous te demandons pardon. Donne-nous désormais maintenant de marcher humblement avec toi et en prenant l'intérêt de nos frères en compte, en les valorisant, en les aidant à réussir plutôt qu'à les caler. Béni soit ton nom, accompagne ton peuple au nom de Jésus-Christ.